point sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Appel sur l'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h temps universel. C'est vous qui avez la parole juste après le journal. Comme chaque jour, nous lançons le débat aujourd'hui sur la gestion de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Un an après l'alerte lancée par l'Organisation Mondiale de la Santé, alerte jugée tardive. Un an après, quelles leçons retenir de cette crise sanitaire? La région est-elle aujourd'hui mieux armée face à ce genre de catastrophe? On attend vos réactions, vos témoignages au 33 9 693 693 70, ou bien sur les réseaux sociaux, les pages Facebook et Twitter de l'émission. Mais d'abord, vos questions sur l'actualité, nos journalistes et nos experts pour vous répondre. Et Donatien est notre premier auditeur ce matin. Il nous appelle de Bujumbura. Bonjour Donatien.
Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe de l'RFI.
Soyez le bienvenu Donatien. Vous avez une question à poser sur Israël et l'accord sur le nucléaire iranien. On vous écoute.
Oui, d'accord. On sait qu'il y a eu l'accord aussi de nucléaire iranien. L'Israël s'oppose fermement. Alors, quelle sera la conséquence de cet accord pour l'Israël?
Merci Donatien pour cette question donc sur l'accord sur le nucléaire iranien qui remonte au 14 juillet et les conséquences pour Israël. C'est Frédéric Ancel qui va vous répondre. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur d'un ouvrage à paraître dans deux semaines, Petite leçon de diplomatie aux éditions Autrement. Alors, est-ce qu'on peut déjà revenir sur cet accord? Israël estime que c'est une erreur. Parfois, le monde entier peut avoir tort, disait quelques jours après l'accord le Premier ministre Benjamin Netanyahou. En quoi il consiste? Un danger peut-être pour Israël?
Alors ça c'est une question absolument centrale, mais je vous dirais pour commencer que Israël n'est pas le seul pays à craindre les conséquences de cet accord, puisqu'on a vu la quasi-totalité des États arabes sunnites de la région être vent debout contre cet accord et vituperé contre la politique d'Obama et de Kerry à propos de l'Iran. Alors Israël a deux craintes. La première, c'est une crainte très concrètement, j'allais dire physique et existentielle. L'État est tout petit. D'une part, d'autre part, il entre dans le rayon d'action de tous les missiles iraniens et on sait que les capacités balistiques de l'Iran sont avérées, enfin, sont très importantes. Mm-hmm. Et puis, la République islamique d'Iran annonce tous les jours depuis 1979 ou presque la destruction de ce qu'elle appelle l'entité sioniste. Bon. Mm-hmm. Alors, quand vous êtes israélien, évidemment, vous vous demandez dans quelle mesure, un jour ou l'autre, vous n'allez pas subir une seconde Shoah, mais cette fois-ci, en quelques secondes et par l'intermédiaire d'un État qui vous est hostile. Bon, mm-hmm. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais qu'il est un peu plus compliqué. Ça, c'est ce que l'homme de la rue ressent. Maintenant, les planificateurs israéliens, Netanyahou et bien évidemment l'état-major militaire, sait tout de même que, d'une part, les Iraniens ont une politique globalement, je dis bien globalement, pragmatique et plutôt prudente depuis l'avènement du Khomeinisme. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas en matière d'affaires étrangères. Mmh. Et que, d'autre part, Israël, de toute façon, dispose lui-même déjà de capacités à la fois nucléaires et conventionnelles susceptible d'anéantir l'Iran. Donc, si vous voulez, je serais plus partagé sur la manière dont Netanyahou fait de la politique, finalement, comme tout le monde, en tentant d'obtenir peut-être des avantages conventionnels de la part des Américains, perdu pour perdu, il se dit qu'au fond, il obtiendra sans doute davantage de chasseurs-bombardiers conventionnels s'il proteste contre cet accord nucléaire. Vous voyez, donc, je serais personnellement relativement prudent et plutôt optimiste.
Effectivement, ce qui inquiète Israël, et c'est aussi une donnée économique, évidemment, la levée des sanctions économiques pour l'Iran, qui veut dire une manne financière, et c'est l'utilisation finalement de cet argent qui inquiète aussi Israël.
Oui, notamment avec les dons très très importants, très substantiels au Hezbollah. Alors Hezbollah, on sait que c'est le bras armé en quelque sorte de l'Iran, ou en tout cas de sa politique panchiite dans la région. Il a été créé d'ailleurs par Téhéran et à Téhéran en 1982. Mais voyez-vous, le Hezbollah a son propre agenda. C'est un parti, d'abord c'est pas seulement un parti politique, c'est un mouvement social aussi très important, qui est installé au Liban, exclusivement au Liban, donc il est arabe, il n'est pas perse, et rien n'indique que le Hezbollah obéit systématiquement à l'Iran. Alors on a vu effectivement le Hezbollah et Israël se faire la guerre à plusieurs reprises, notamment en 2006, mais là encore il n'est pas dit que le Hezbollah n'ait pas d'autre chat à fouetter. Je donnerai un seul exemple. Aujourd'hui, et depuis 3 ans, le Hezbollah consacre tous ses efforts à la survie du régime syrien, à la huit, donc chiite, d'origine chiite, de Bachar al-Assad. Si vous voulez, le Hezbollah a autre chose à faire, pour l'instant en tout cas.
Le Hezbollah concentré sur un autre front. Frédéric Ancel, restez avec nous. On a un autre auditeur qui a une question à vous poser sur le même sujet. C'est Ba qui nous appelle de Rennes, dans l'ouest de la France. Bonjour Ba.
Bonjour Marie.
On écoute vos questions, Ba.
Évidemment, ma question c'est rapporte un peu à celle posée par mon prédécesseur sur l'accord iranien. Donc je me demandais aussi pourquoi Israël s'oppose-t-il à cet accord. Donc ça a été à partie répondu. Donc la seconde question c'est est-ce qu'il dispose les moyens pour influencer les États-Unis et donc empêcher cet accord. Et si oui, quels sont ses moyens?
Alors justement, les États-Unis vont voter. Il va y avoir un vote au Congrès en septembre sur cet accord sur le nucléaire iranien, un Congrès qui est à majorité républicaine. Alors Frédéric Ancel, est-ce que Israël peut peser sur les élus républicains pour que les États-Unis finalement rejettent cet accord?
Alors Israël peut tenter de le faire. Netanyahu a déjà tenté à plusieurs reprises de le faire, avec d'ailleurs un certain succès chez les républicains, effectivement, un succès bien moindre chez les démocrates. Mais attention, aux États-Unis, le système, comme vous le savez, est présidentiel. Autrement dit, même si effectivement le Congrès, et en particulier le Sénat, qui est vraiment la chambre principale en matière de défense et d'affaires étrangères aux côtés du président, si le Congrès donc rejette tout ou partie de l'accord, et en dernier ressort, c'est quand même le président des États-Unis qui pourra valider avec des modifications mineures. Mais vous voyez, à la fin des fins, la décision revient quand même à la présidence.
Mais alors finalement, la conséquence, Frédéric Ancel, entre Israël et les États-Unis, si Israël ne peut pas vraiment peser tout son poids puisqu'il y aura une décision définitive prise par Barack Obama, ce serait plutôt alors les relations entre les deux pays.
Les relations entre, de toute façon, les deux chefs d'exécutif sont évidemment détestables depuis 2009, ça on le sait. Les relations entre les deux administrations, donc les deux gouvernements, si vous voulez, ne sont pas très bonnes. Mais regardez ce paradoxe stupéfiant. Jamais depuis 48, jamais depuis depuis la création d'Israël, les relations technologiques, économiques, culturelles également d'ailleurs, entre les États-Unis et Israël n'ont été aussi importantes. Jamais. Y compris sur le plan militaire, y compris sur le plan du renseignement, notamment face à Daesh. Donc on est bien là dans une relation qui, en très haut lieu pour l'instant, n'est pas bonne. Mais vous savez, les Israéliens survivront à Netanyahou, les Américains survivront à Obama.
Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été en ligne avec nous pour répondre aux questions de Ba et d'Onassien, nos auditeurs de Rennes et Bujumbura. Je rappelle donc que vous êtes maître de conférence à Sciences Po et que vous avez écrit un ouvrage, Petite leçon de diplomatie, qui paraîtra dans 2 semaines aux éditions Autrement. Un tout autre sujet, c'est Soumaïla maintenant qui est en ligne avec nous de Bamako pour poser une nouvelle question sur l'actualité. Bonjour Soumaïla.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors vous Soumaïla, vous avez une question à poser sur Julius Malema en Afrique du Sud.
En fait, c'est deux, oui. Je voudrais savoir, la semaine dernière, la justice sud-africaine a abandonné les poursuites contre Julius Malema. Je voudrais savoir pourquoi son procès n'a pas eu lieu et qu'est-ce qu'on lui reproche exactement.
Merci Soumaïla pour ces questions. C'est Lisa Fabian, notre correspondante en Afrique du Sud, qui va vous répondre. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Alors rappelons juste Lisa que Julius Malema est le leader de l'EFF, un parti de gauche radicale. Et il devait effectivement être jugé pour corruption, blanchiment d'argent, fraude, racket. Le juge a décidé la semaine dernière de lever les poursuites qui pèsent contre lui. Alors commençons par les soupçons qui pèsent contre Julius Malema, ou plutôt qui pesaient contre lui. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, il s'agit d'une affaire assez ancienne puisqu'elle remonte à 2009. À l'époque, Julius Malema était encore membre du Congrès national africain. Il dirigeait à l'époque la Ligue des jeunes de l'ANC. C'est grâce à ses connexions politiques qu'il aurait influencé l'attribution d'un marché public dans la province du Limpopo. Il s'agissait d'un contrat à près de 4 millions d'euros qui a été remporté par une société dans laquelle Malema était lui-même actionnaire. D'après le parquet, cet appel d'offres était en fait truqué et Julius Malema et sa famille auraient reçu d'importants pots de vin à travers plusieurs sociétés écrans. Cette escroquerie aurait permis aux jeunes leaders de financer un train de vie somptueux et d'acheter notamment une ferme et une luxueuse Mercedes. En tout, ce sont 55 chefs d'accusation qui pesaient sur le jeune leader et ses deux co-accusés, notamment, vous l'avez dit, pour blanchiment d'argent, corruption, fraude et racket.
Mais alors Lisa, pourquoi mettre fin au procès maintenant et est-ce que cela veut dire que Julius Malema est acquitté ?
Alors, ce procès de Julius Malema aurait dû débuter dès 2012, mais il a été repoussé à plusieurs reprises. La semaine dernière, le leader du parti EFF s'est donc à nouveau présenté devant la justice. Mais une fois de plus, la cour n'a pas pu siéger, car l'un de ses co-accusés était absent, malade, à l'hôpital. Le procès aurait donc dû être une nouvelle fois repoussé de plusieurs mois, une situation devenue inacceptable selon le juge, qui a décidé de lever les poursuites. Alors, attention, il ne s'agit pas d'un acquittement, puisque le parquet a bien souligné que le dossier pourrait être rouvert ultérieurement. Il n'empêche que cette décision représente un sérieux revers pour le pouvoir et une victoire pour Julius Malema.
Alors justement, Lisa, on peut parler de conséquences politiques de cette décision de justice ?
Oui, Malema a clairement gagné en crédibilité, lui qui a toujours clamé que ce procès était une manipulation de l'ANC pour le faire tomber. Aujourd'hui, le revirement de la justice semble accréditer cette thèse aux yeux du public. La semaine dernière, Julius Malema n'a pas arrêté de réclamer un procès en clamant haut et fort qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il voulait donner sa version des faits devant la justice. Une attitude payante et qui tranche avec celle de Jacob Zuma, qui a notamment échappé à un procès pour corruption en 2009 dans l'affaire de l'Arms Deal. Cela permet à Julius Malema d'attaquer aujourd'hui Jacob Zuma en justice dans l'affaire Nkandla, du nom de la résidence secondaire du président qui a été aménagée aux frais du contribuable. Le parti EFF a déjà entamé une procédure pour porter cette affaire devant la Cour constitutionnelle et lors d'une séance parlementaire mouvementée la semaine dernière, Julius Malema a donné rendez-vous à Jacob Zuma devant un tribunal, une phrase qui résonne évidemment beaucoup plus fort maintenant qu'il est lui-même libéré de ses propres ennuis judiciaires.
Merci Lisa Fabian d'avoir été en direct avec nous d'Afrique du Sud pour répondre à Soumaïla, notre auditeur de Bamako. On accueille maintenant Adama à Bamako également pour un tout autre sujet qui a retenu votre attention, Adama. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
On écoute vos questions, Adama.
En fait, la Russie a introduit une requête à l'ONU réclamant plus d'un million de kilomètres carrés dans l'océan Arctique. En premier lieu, j'aimerais savoir pourquoi la Russie combat tant ce territoire. Mmh. Et en second lieu, la Russie avait déposé une première requête en 2001 combattant le même territoire. Et l'ONU lui a demandé d'apporter plus de preuves. Est-ce que pour cette fois-ci, la Russie a apporté les preuves nécessaires?
Merci Adama pour ces questions. Donc concernant cette requête de la Russie qui revendique 1,2 million de kilomètres carrés dans l'Arctique, elle a déposé une demande auprès de l'ONU. L'Arctique, il faut le rappeler que c'est le dernier territoire non réclamé de la planète. Nous avons Philippe Migaud au téléphone pour vous répondre, Adama. Bonjour Philippe Migaud.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, membre du Centre d'études des modes d'industrialisation de l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, si la Russie obtenait gain de cause et obtenait donc ce bout d'Arctique, son territoire s'étendrait jusqu'au pôle Nord. Et effectivement, Adama se demande pourquoi la Russie convoite une partie de cet Arctique. Quels sont ses intérêts ?
Alors il faut bien se rendre compte, pour répondre à votre auditeur, que la Russie n'est pas la seule à convoiter cette zone arctique et que la zone arctique est vue comme un nouvel Eldorado par toutes les puissances de la région. Mmh. Par exemple, le Danemark a déposé une demande en décembre dernier pour une zone de 900 000 km². 900 000 km², c'est quand même la superficie de la France et de l'Allemagne. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de petit. Les Norvégiens, les Canadiens aussi demandent une extension de leurs eaux territoriales en Arctique. Alors quel est l'enjeu pour tous ces pays russes, Russie, Norvège, Canada, Danemark ? Eh bien c'est tout simplement d'avoir accès aux richesses de l'océan Arctique. Et ces richesses, on considère qu'elles sont tout à fait considérables. D'après certaines études, on estime qu'il y aurait 25% des hydrocarbures mondiaux, qui seraient encore à découvrir et que ces hydrocarbures seraient dans l'océan glacial arctique. Donc il y a des hydrocarbures, vous avez des mines, vous avez des minerais rares, vous avez aussi d'énormes ressources halieutiques, donc énormément de ressources pour la pêche. Et puis l'océan glacial arctique, c'est aussi le passage du Nord-Est. Donc c'est une route commerciale qui, avec avec la fonte de la banquise, va permettre de raccourcir substantiellement la distance entre l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord-Est et l'Europe. Et donc, c'est une zone stratégique que chacun veut contrôler, la Russie et d'autres pays.
Alors, Adama évoquait une précédente demande de la Russie donc à l'ONU. C'était en 2001. Elle réclamait toujours donc ce morceau de l'Arctique. Quelle avait été la réponse des Nations Unies et pour quelle raison sa demande n'avait pas été acceptée?
Alors, en 2001, la Russie avait demandé une extension de son territoire en prenant en compte un article de la Convention de la mer. Cette Convention de la mer stipule que lorsque l'on peut démontrer qu'un territoire est une extension de la zone géographique sur laquelle est situé votre État, eh bien vous pouvez réclamer la souveraineté sur cette portion de l'océan.
En gros, c'est un morceau de territoire, mais sous l'eau. Il y a une continuité
La Russie avait dit que la dorsale de Lomonosov et la dorsale de Mendeleïev étaient des prolongements du territoire russe, des prolongements sous-marins, et que à ce titre, elle avait le droit, d'après la Convention de la mer, de réclamer la souveraineté sur ses eaux territoriales.
Mais alors, ça n'a pas suffi à l'époque.
Ça n'a pas suffi. L'ONU avait demandé des preuves supplémentaires. Il y a eu un certain nombre d'expéditions qui ont eu lieu, avec notamment la pose d'un drapeau russe sur le fond de l'océan glacial qui avait été très médiatisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, je crois que c'était en 2007. Mais concrètement, les preuves qui sont apportées par les Russes sur cette revendication, cette propriété des dorsales Lomonosov et de la dorsale Mendeleïev, ces preuves sont contestées par les Danois, qui considèrent, eux, que la dorsale Lomonosov est une extension du Groenland, territoire danois, et puis également par les Canadiens qui considèrent que, eh bien, tout simplement, la Lomonosov, c'est une extension du territoire canadien. Donc, nous avons affaire à une querelle d'experts, à une querelle de géologues, à une querelle de géographes, une querelle dont les preuves se trouvent à des milliers de mètres sous la mer, sous la banquise, et bien entendu, chacun a son interprétation, et c'est une querelle d'experts qui a de formidables conséquences géopolitiques.
Alors, Philippe Migaud, Philippe Migaud, on avait un autre auditeur qui voulait vous poser une question. Il nous appelait de Bukavu, mais la ligne a coupé. Il s'interrogeait sur les risques d'accroître les tensions avec les pays occidentaux après cette demande de la Russie. Parce qu'à vous entendre, évidemment, plusieurs pays donc se disputent ce morceau d'Arctique. Mais ça veut dire aussi que quand l'ONU aura tranché, ça aura forcément une incidence sur les frontières entre ces pays-là.
Bien entendu, mais alors, on peut concevoir les choses de deux façons. On peut considérer que nous sommes dans une compétition en ce qui concerne les ressources de l'Arctique et que cette compétition va nécessairement entraîner une montée des tensions. Et puis on peut aussi espérer que des négociations aient lieu. Je rappelle qu'il y a eu un premier accord qui a eu lieu entre la Norvège et la Russie sur la délimitation des zones en mer de Barents. Et que cet accord est considéré comme un cas à citer en exemple. Donc on peut tout à fait arriver à des accords négociés. Par ailleurs, je rappelle que malgré tout, vous avez un certain nombre d'instances comme le Conseil de l'Arctique qui réunit les nations riveraines de l'océan glacial arctique, et que régulièrement, eh bien, vous avez une concertation au niveau de ce Conseil. Par exemple, le Conseil a tranché récemment sur la nécessité de limiter les émissions de carbone et de méthane dans l'océan Arctique afin d'éviter le réchauffement de la zone. Vous avez aussi des accords qui ont eu lieu entre les Norvégiens et les Russes sur la gestion concertée des ressources halieutiques, donc des ressources de la pêche. Donc oui, il peut y avoir une montée des tensions, mais enfin, pour l'instant, ce à quoi on assiste, c'est plutôt à des négociations et quelquefois à des négociations qui réussissent.
Alors, on aura sûrement l'occasion de reparler sur RFI. Merci beaucoup Philippe Migaud, directeur de recherche à l'IRIS, d'avoir répondu aux questions d'Adama qui était en ligne avec nous tout à l'heure de Bamako, et Serge qui nous a posé une question depuis Bukavu en République démocratique du Congo. Restez avec nous. Dans 10 minutes, on lance le débat sur la gestion de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et les leçons à retenir. Je vous dis à tout à l'heure, ce sera juste après le journal.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.